Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui fait les bilans de la gouvernance du secteur de l'environnement depuis l'accession de la RDC à l'indépendance jusqu'à nos jours. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard Malengela de la station de Radio Kapimbandaka. Polydor Basunga s'occupe de la prise de son sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro spécial consacré au bilan de la gouvernance environnementale en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Le capital des ressources naturelles de la RDC est particulièrement important. La nation congolaise dispose de la deuxième grande forêt tropicale au monde après celle de l'Amazonie. Elle regorge également la plus grande biodiversité du continent africain avec plus de 50% des ressources d'eau douce. Le pays possède aussi près de 80 millions d'hectares de terres arables. Il se pose cependant un sérieux problème dans la gestion de ce secteur malgré la présence d'un arsenal juridique important. Quelle analyse faire de la gestion de ce secteur depuis l'accession de la RDC à l'indépendance jusqu'à nos jours? Quelles sont les stratégies à développer pour améliorer la gestion du secteur de l'environnement et des développements durables en RDC? Tentative de réponse dans ce numéro des Codes du développement qui débute avec le témoignage de M. Ikomoya Lomboto Ignace, un habitant de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Ces notables du chef-lieu de la province de l'Équateur se rappellent de l'âge d'or du jardin botanique de Yala, qui est depuis une vingtaine d'années presque à l'état d'abandon. Il le dit au micro de Paul Richard Malengela.
Témoignage.
Notre village où je suis né, c'est Alifumba. Alors du côté père, c'est Boangi. C'est sur la route Bamaya. Alors, l'histoire du jardin botanique, si je peux parler un peu, c'est parce que j'ai eu un grand-père qui travaillait là-bas. Alors, comme vous le savez, c'était un domaine réservé pour le roi
à l'époque.
Même nous, on avait des difficultés pour aller là-bas, pour accéder là-bas. Mais sauf que le grand-père nous racontait que là-bas, c'est chez les Blancs. Quand vous allez là-bas, et même sur la route, il ne faut pas ramasser même des fruits qui tombent. Vous ne pouvez même pas couper le bois. Donc, il y avait des gardes de jardin, ils étaient là. Vous avez des allées. Et c'était vraiment la forêt. C'est encore une réserve. Vraiment, c'est naturel. Ah oui, naturel. Alors, c'est comme ça que le grand-père nous disait. Mais les Blancs pouvaient aller là-bas quand on programme pour les loisirs. Il accédait, quelques évolués aussi allaient là-bas, mais les gens étrangers à ce domaine-là, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas là-bas, et quand on fait la cueillette, les gens partaient là-bas. Et avant d'entrer, il y avait une taxe à payer, donc il y avait une condition avant d'accéder. Il faut avoir payé une taxe avant d'y entrer. Et quand vous entrez là-bas, vous êtes bien surveillé, vous faites ce que vous allez faire, comme je l'ai dit, par exemple, acheter ou le loisir, après vous sortez. Et puis on ferme avec la grille. Donc c'est ça le souvenir que je connais. Jusqu'en 67, j'ai dû partir d'ici pour d'autres cieux où j'ai travaillé là-bas à la territoriale.
Alors maintenant que vous êtes revenu encore ici en Mbandaka,
oui.
Est-ce que vous avez trouvé les choses sont les mêmes ou bien il y a eu changement positif ou négatif?
Non, mais jardin botanique, il n'est pas comme nous on apprenait, même à distance, c'est quand le grand-père nous racontait et les gens qui partaient là-bas aussi. Il y a un grand changement, les maisons délabrées, il y avait des pépinières là-bas. Des arbres fruitiers, si vous voulez faire un berger, c'est là où on allait acheter. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement.
Merci à M. Ikomoya Lomboto Ignace, un habitant de la ville de Mbandaka, qui a témoigné au micro des Codes du développement. Soulignons que le jardin botanique de Yala est le plus vieux ainsi que le plus grand jardin botanique d'Afrique. Il se trouve aujourd'hui dans un état très défectueux. c'est quoi la gouvernance environnementale? C'est l'ensemble des règles, des politiques et des institutions qui façonnent la manière dont les humains interagissent avec l'écologie, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le professeur Dieudonné Moussibono, conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable, perçoit la gouvernance environnementale comme étant un mode de gestion intelligente de l'écosystème.
Pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'environnement c'est quoi? L'environnement d'abord c'est un système. C'est un système dynamique, c'est-à-dire ça change.
Et au fil du temps.
Oui, ce système dynamique est constitué de sous-systèmes naturels et socioculturels. Quand je parle de sous-systèmes naturels, je peux prendre par exemple les forêts, les eaux,
les sous-sols.
La brousse, la savane, tout cela, le sol, ça, l'atmosphère, ça c'est naturel. Mais il y a des sous-systèmes socioculturels, les villes, l'économie, le social, tout cela, c'est la création de l'homme. Et donc, en combinant les deux, en les gérant de façon intelligente, on crée le progrès dont devait vivre l'homme, dont devait vivre les hommes.
D'où la conjonction environnement et développement durable.
Oui, parce que le développement durable n'est possible que si l'environnement est bien géré. Le support du développement durable, c'est l'environnement. L'environnement en tant que ressources, qui peuvent être des ressources naturelles, c'est-à-dire richesses potentielles, des éléments de la nature qui constituent une richesse potentielle. Nous avons les mines, nous avons le bois, nous avons la biodiversité, on a les combustibles fossiles. Tout cela sont des éléments naturels à partir desquels on peut créer la richesse réelle qui constitue un bien et service. Mais au-delà de cela, il y a la culture, les éléments culturels, qui sont également des richesses à qui on devait donner une valeur financière dont devaient vivre les États.
La gestion de l'environnement sous-entend également la mise en place des lois et des institutions devant assurer la bonne gestion du secteur de l'environnement et des développements durables, ajoute José Ilanga, directeur général des forêts au ministère de l'Environnement.
Vous savez, pour le commun des mortels, quand on dit environnement, c'est quoi? Et parfois, on a difficile à définir ce qu'on entend par environnement. Donc, il faut le prendre dans un sens beaucoup plus simpliste en disant l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est le support physique de la vie, là où nous sommes. Et l'environnement, c'est aussi ces sous-écosystèmes qu'on appelle facilement les sols, les terres, les forêts. L'environnement, c'est aussi ce que le DG de l'ICSN vient de développer, vraiment développer ici, c'est tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est conservation, les aires protégées. L'environnement, c'est les ressources halieutiques, pour ne pas dire les ressources en eau seulement. Et l'environnement, c'est un tout. Lorsqu'on parle de la gestion de l'environnement, cela sous-entend en termes clairs ou en français facile, c'est la protection de ces complexes-là. La protection de ces complexes qui passe obligatoirement par la mise en place d'une institution ou des institutions, qui passe par la définition ou l'élaboration d'un arsenal juridique qui prend les textes légaux, la législation, mais aussi qui passe par l'élaboration de programmes ou de projets pour la protection de l'environnement physique, mais également pour la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles renouvelables que nous attendons par ici, les forêts, les eaux, les sols.
Il n'y a pas eu d'avancée significative en matière de la gestion du secteur de l'environnement depuis l'accession de la RDC à l'indépendance jusqu'à nos jours, affirme le professeur Jean-Dédé Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour l'environnement et développement durable, ACTED en sigle.
Il n'y a pas eu d'avancée significative en matière de gestion de l'environnement en République démocratique du Congo. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le 24 janvier 2019, lors de son investiture à la magistrature suprême, son Excellence, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait placé l'environnement parmi ses priorités. C'est ainsi qu'il revenait dans son discours pour dire « Le potentiel environnemental dont regorge la République démocratique du Congo devrait participer au développement socio-économique de notre pays, lutter contre la pauvreté, diversifier l'économie, améliorer les conditions de vie et surtout créer des emplois pour les jeunes de la République démocratique du Congo. » Ça, c'était important. Le président de la République ne s'est pas limité seulement à cette vision. C'est ainsi que vous avez vu dans beaucoup de sommets internationaux où la République démocratique du Congo était absente depuis de nombreuses années. Félix Tshisekedi a ramené le Congo sur l'orbite internationale.
Pour sa part, l'écologiste Henri Mallet nous livre les grandes lignes de ce qu'a été la gestion de l'environnement depuis 1885, année de la création de l'État indépendant du Congo EIC, jusqu'à nos jours.
L'histoire de la gestion de l'environnement part d'avant 1900, 1887, jusqu'en 1960. Pour moi, c'est la première période, la période coloniale. En cette époque-là, nous avions une expertise qui était belge. Et sur le plan biodiversité, la biodiversité était là. Les nombres étaient là. On avait 100 000 éléphants, on avait 80 000 okapis, on avait la RDC, beaucoup. Donc tout, la biodiversité était là. Après 60, ça vient à la période de 65. Les blancs sont partis. Il n'y a pas une expertise en RDC. Il y a quand même un rabais. Mais la biodiversité est encore là. Nous arrivons à l'époque de la Deuxième République. L'expertise est jeune. Les ressources naturelles commencent à baisser. Nous arrivons à l'époque de la Deuxième République. La source du pouvoir, c'était un coup de force. Et puis, il s'en est suivi un autre coup de force. Nous allons de cette période-là jusqu'à 2001 ou 2002. Les gens qui donnaient l'argent autrefois se rétractent, le bailleur de fonds. La plupart de nos aires protégées, même le plus stratégique, les 5 sites de patrimoine mondial, ils sont classés dans la liste rouge. L'expertise, elle est jeune, mais elle tend à mûrir. Puis vint la période de la Deuxième République, de la Troisième République, qui a duré de 2002 à 2019, soit 18 ans à peu près.
L'écologiste Henri Mallet dresse une cotation de ce qu'a été la gouvernance de ces secteurs depuis l'époque coloniale jusqu'à 2020.
La situation de l'environnement en RDC, si on peut coter, en tout cas, on irait, à l'époque coloniale, on donnerait 9. À l'époque de Kasavubu, on donnerait 8, même 7. À l'époque de Mobutu, c'est 6. Et puis quand vient la Fidèle, c'est 4, même 3. Et lorsqu'il y a regain de confiance, la hausse, la cote commence à monter. On peut dire aujourd'hui, nous sommes à 5. Pourquoi à 5? Je peux m'expliquer. Nos aires protégées, clés, qu'on parle site patrimoine mondial, c'est encore dans le rouge. Quand vous allez dans les aires protégées, il y a l'insécurité. Il y a des initiatives aujourd'hui, telles que l'initiative sur les grands écosystèmes forestiers du monde, où on voudrait restaurer les forêts, les terres perdues. Le président s'est engagé. À peine arrivé, il s'engage à faire 1 milliard d'arbres à planter.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Capi. Vous êtes en train de suivre Écho du Développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui fait les bilans de la gouvernance du secteur de l'environnement depuis les années 60 jusqu'à nos jours. La RDC est parmi les pays les mieux outillés dans la gestion de l'écologie, indique José Ilanga. Nous rappelons qu'il est le directeur général des forêts au ministère de l'Environnement.
Moi, je dis que la RDC, au jour d'aujourd'hui, se trouve être parmi les pays, si pas au monde, mais au moins au niveau de l'Afrique, les mieux outillés pour gérer durablement ces ressources naturelles renouvelables et booster le développement à partir de leur utilisation, je dis bien, rationnelle. Si je prends le secteur de forêts, c'est un scandale écologique, c'est un scandale forestier, c'est 50% des forêts tropicales au monde, c'est 60% des forêts des bassins du Congo, c'est 67% du territoire national. Mais vous savez, ça fait pratiquement 17-18 ans au jour d'aujourd'hui que nous ne pouvons pas prétendre accepter qu'il y ait de nouveaux capitaux dans l'exploitation forestière pour la simple raison qu'il y a un moratoire qui court. Et ce moratoire n'est subi que par la RDC, le potentiel forestier le plus important d'Afrique, du monde. Alors, c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous en train de pousser pour qu'on lève le moratoire, pour nous permettre de booster, d'injecter de nouveaux capitaux pour l'exploitation forestière, industrielle et bois.
La nation congolaise a une position exceptionnelle en ce qui concerne notamment la biodiversité à travers le monde. Cependant, la gouvernance de ce secteur est souvent confiée à des personnes qui ne sont pas suffisamment rodées en la matière, affirme René Ngongo, président de la commission environnement et ressources naturelles au sein de la société civile.
Tout le monde sait que nous avons un potentiel. Aujourd'hui, nous avons le deuxième poumon de la planète. Nous jouons un rôle important dans le cadre de la séquestration de carbone à travers nos forêts, mais aussi à travers les tourbières. Vous savez que dernièrement, il y a quelques années, il y a eu des études qui ont montré que nous avons un potentiel énorme en termes de tourbières qui jouent un rôle très important comme élément de stabilisation du climat. Donc c'est ces éléments que nous devons amener à la table de négociation. On parle des fonds verts pour le climat, mais les pays phares pour gérer ces questions-là, ça devait être la RDC. Et lorsque on décide sur ces questions et que nous ne sommes pas là, vous comprenez comment nous perdons notre leadership. Je crois qu'à chaque rencontre, il faut, et on le voit de plus en plus, qu'il y a une tendance de bien préparer la participation de la République démocratique du Congo à ces rencontres, ne pas envoyer des touristes, des gens qui passent le temps dans les shopping, au lieu d'être là où se passent les discussions.
Les braconnages des espèces protégées et l'exploitation illicite des bois nobles sont les quelques mots que le gouvernement congolais n'a pas encore réussi à éradiquer malgré l'élaboration des lois et la ratification des conventions internationales portant protection de ces ressources. Dieudonné Musibono, conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable, pense qu'il faut renforcer les capacités managériales des institutions ayant en charge la gestion du secteur de l'environnement.
Vous savez que ces espèces qu'on peut nous pas exporter. Parce que quand vous vous référez à ces espèces, il y a trois catégories d'espèces. Il y a les espèces strictement protégées, dont le commerce est strictement interdit. C'est l'annexe A ou bien U. Et puis il y a les espèces qui sont également protégées, mais partiellement, dont le commerce doit faire partie des quotas. Donc vous allouez des quotas annuels pour voir quelle quantité vous allez exporter. Là, c'est l'annexe B. Pour la troisième catégorie, là, ce sont les espèces vulgaires qui ne jouissent pas d'une protection particulière. Mais là, c'est au niveau international. Mais au niveau national, toute espèce animale et végétale doit être soumise à des règles de prélèvement, à des règles de gestion. Sinon, ça devient chaotique parce que les espèces qui ne sont pas aujourd'hui sur l'annexe 1 ou 2 peut les devenir demain. Si on a mal utilisé à un moment donné, on se rend compte que la disparition d'une espèce en péril, il faut la protéger intégralement. Pour moi, il faut que les capacités de surveillance du ministère de l'Environnement soient renforcées pour mettre fin à ce commerce. Ici, d'ailleurs, nous parlons de l'érosion de la biodiversité. L'une des menaces majeures de la biodiversité, c'est l'érosion, c'est la contrebande, les marchés noirs. C'est ce qui fait que certaines espèces ont disparu chez nous. Par exemple, les rhinocéros blancs du Nord. Maintenant, il n'y en a plus.
On n'en trouve plus, oui.
Il n'y en a plus parce que, d'abord, sa corne était
très recherchée.
Très recherchée, surtout en Asie du Sud-Est. Où un kilo revenait à 100 000 dollars, un kilo de corne. Quand vous prenez un animal adulte qui porte deux cornes, le total c'est 6 kilos, les deux cornes donnent 6 kilos, ça fait 600 000 par bête. Et les braconniers s'arrangeaient pour venir organiser les campagnes dans notre part, là-bas, dans le Maïko. Ils venaient là-bas, ils venaient là-bas des animaux. Et ils soudoyaient les gardes. Parce que l'élément de garde qui a 150 ou 200 dollars par mois, qui a même des arriérés de paiement, quand un braconnier lui tend 5-10 000 dollars, il devient guide pour leur monter dans ce cas les animaux.
Les projets de transfert d'eau douce de la RDC vers les pays africains qui en manquent. Les programmes d'exploration et d'exploitation du pétrole dans les aires protégées et la problématique de la protection des tourbières du bassin du Congo doivent être minutieusement étudiés au préalable avant d'élever une option, conclut le professeur Dieudonné Musibono. Nous rappelons qu'il est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable. On chute. C'est par ici que nous... Oh là là. C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au bilan de la gestion du secteur de l'environnement que vous a présenté. Non, je sautais un aspect sur le papier. Ok. C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au bilan de la gestion du secteur de l'environnement depuis les années 60 jusqu'à nos jours que vous a présenté Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard Malengela. La prise de son était assurée par Paul... Qu'est-ce qu'il y a? Tobandela, pardon. C'est par Polydor Basunga, non Paul Banyanyama. Vous n'avez pas la même tête quand même. Hein? C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au bilan de la gestion du secteur de l'environnement depuis les années 60 jusqu'à nos jours en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard Malengela de la station de Radio Kapimbandaka. La prise de son était assurée par Polydor Basunga sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro d'Écho du Développement le jeudi prochain. À bientôt. C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au bilan de la gestion du secteur de l'environnement en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours que vous a présenté Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard Malengela de la rédaction de Radio Kapimbandaka. La prise de son était assurée par Polydor Basunga sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro de Code du Développement le jeudi prochain. À bientôt.